Pauline Pucciano, Titania 3.0, Chapitre 10, Promenade avec Stéphane Locard. À 7h50, Jean avait envoyé son poème à Titania, par tous les canaux possibles, sans réponse. À 7h52, il avait quitté son appartement, avec un sac à dos un peu plus plein que d'habitude, pour aller à son travail. Mito devait se rendre à Morgan Corp en fin de matinée et se prêter à toutes sortes d'examens, avec pour mission d'ouvrir la fenêtre de la salle d'ingénierie médicale et de repérer une issue de secours praticable. Il s'assurerait également de la présence de Titania et de sa localisation. Peu avant midi, les HR arriveraient et l'opération coup de poing ne durerait que quelques minutes. Titania serait enlevée, il redescendrait par l'issue de secours, puis ils fileraient en direction du périph' par la porte d'Anières, où Jean devrait les retrouver. Ensuite, ils chercheraient une planque. Ce matin, Jean n'avait qu'à attendre, découvrir ce qui devait se passer à midi à la fontaine, récupérer ses affaires, préparer son départ. Dans la bouche gouailleuse du HR, tout paraissait possible. Les solutions semblaient fleurir dans son esprit, là où lui, Jean, n'apercevait que d'insurmontables problèmes. Son optimisme contagieux lui avait fait supporter la situation, mais leur séparation l'avait fait ensuite affreusement douter. Mito parti, il ne restait plus qu'un échafaudage improbable, un plan voué à l'échec, et la peur panique de perdre Titania. Les 3 heures qu'il passa à l'unité de production furent lentes et vides. Puis, conformément à ce qu'il avait décidé, il se fit excuser pour raison de santé, signa une décharge et promit de se présenter le lendemain. Il était un peu moins de 11 heures lorsqu'il s'assit sur le rebord de la fontaine Stravinsky. Il avait décidé de suivre la dernière promenade de Titania, d'ici, ce qui lui ferait gagner du temps. À 11h05, il mit son casque d'immersion virtuelle et se connecta au compte OMS de Titania. Son flux direct était presque saturé, et il se félicita d'avoir établi la connexion avec un peu d'avance. L'emplacement du document audiovisuel était tout noir, et il dut attendre plus d'un quart d'heure, comme les milliers de courtisans qui s'étaient joints à cet événement. Et puis, contre toute attente, au lieu de la voir apparaître, il vit défiler le logo familier de Happenings, accompagné d'une musique de chambre qui composait le générique. Le visage de Stéphane Locard, les cheveux et la barbe impeccablement sculptés, un rubis sur le pouce et le cou orné d'une fraise pourpre, envahit l'écran. Ses yeux expressifs jouaient la tristesse et l'empathie, l'un de ses meilleurs rôles, et tandis qu'une bannière défilait sur l'image en lettres gothiques avec les mots « Dernière séance de Daphné Morgovic », il prit la parole d'une voix profonde et grave qui modulait sur ses cordes avec virtuosité toute la palette des sentiments humains. « Bienvenue au-delà de la fiction », commença-t-il, accomplissant ainsi le rituel qui initiait chacune de ses émissions. Nous sommes rassemblés en ce jour pour un événement unique qui ne manquera pas de vous émouvoir et de vous faire frémir, le spectacle inédit d'un scandale lourd de conséquences pénales, d'une tragédie familiale et d'une mort annoncée. Avec dans le rôle principal un personnage troublant et ô combien idolâtré qui a enflammé le réseau par ses métamorphoses constantes et son charme ingénu, un personnage qui a disparu et qui s'est relevé de ses cendres que vous avez oublié et que vous allez reconnaître. Un solo dramatique accompagna le gros plan soudain sur le visage de Titania. Vêtue d'un simple voile noir où pendaient quelques larmes de diamant, d'une pâleur extrême, les yeux cernés d'un maquillage charbonneux, juchée sur des talons noirs, elle avait malgré ses artifices un air désemparé que Jean ne lui connaissait pas. Beaucoup d'entre vous la connaissent sous son pseudonyme et suivent depuis 2 ans sa carrière flamboyante dans la nébuleuse du self-art. La vaporeuse, l'insaisissable, la blanche Titania, reine hautaine et lunaire de la nuit parisienne, est là devant vous pour l'apothéose de son œuvre et de son art, et vous allez l'accompagner dans son expérience ultime. « Titania, » dit-il en s'adressant à elle, « êtes-vous réellement Daphné Morgovic ?»« Oui. » dit-elle simplement. L'écran se divisa en plusieurs parties. Une partie faisait défiler les photographies de la fillette devant qui s'étaient agenouillées toutes les divas de la mode et tous les artistes du Vogue Art. Une autre partie montrait les 2 personnages en pied. Stéphane Locard, dans un habit de velours damassé d'une coupe impeccable, dans un dégradé de pourpre et de noir, et Titania, plus petite, son corps presque nu sous le voile qui s'agitait au vent de la Seine. Ces deux personnages semblaient sortis d'une époque légendaire et irréelle. Ils traversaient la rue comme des songes. Une troisième partie présentait des vues aériennes du pont Alexandre III et de ses grands chevaux d'or qui se découpaient sur fond d'azur sur leurs piliers monumentaux. Cette émission est diffusée en différé afin de préserver la tranquillité de notre héroïne et de garantir sa sécurité. Lorsque vous verrez ces images, le récit que nous allons vous conter sera déjà en marche. C'est Titania qui a choisi l'itinéraire de la promenade. Titania, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?
Pour pouvoir revoir ce quartier une dernière fois.
Que vous apprêtez-vous à faire, Titania ?
Je m'apprête à honorer un contrat. Un contrat très spécial. J'ai promis de livrer mon corps il y a 3 ans à la célèbre entreprise Morgan Corporation, en échange d'un train de vie luxueux.
Morgan Corporation est une entreprise spécialisée dans le prélèvement, l'achat, la revente, la fabrication et l'implantation d'organes. Une entreprise que vous connaissez bien, je crois.
Oui, car ma mère, Irina Morgovic, en est actionnaire. Morgan Corp domine le marché mondial des organes, mais n'a jamais reçu l'autorisation de prélever des corps entiers.
Des corps entiers ?
Oui, des corps comme le mien, jeunes, beaux, en parfaite santé. Des corps qui servent à ce que certains appellent le transhumanisme.
Stéphane Locard observa un silence un peu théâtral. Sur une partie de l'écran, des photographies d'Irina Morgovic avec sa fille Daphné défilaient à présent, ainsi que des photographies de libertariens transhumanistes. Parlez-vous de ces milliardaires qui souhaitent survivre en greffant leur cerveau dans un autre corps ou bien en le téléchargeant dans une machine ?
Oui.
La caméra revint sur Stéphane Locard qui reprit son rôle de cœur shakespearien. Ainsi, cher raisonnaute, l'ange que vous voyez à côté de moi et qui n'est plus tout à fait humain s'est déjà damné. Ce Faust du 22e siècle a pactisé avec le diable, un démon moderne et high-tech qui met ses griffes cybernétiques dans l'œuvre de Dieu en prenant aux uns la vie qu'il va inoculer aux autres.
Savez-vous qui achète votre corps ?
Non, j'ignore son identité.
Titania paraissait étrangement calme et Jean remarqua que ses pupilles étaient anormalement dilatées. Il nota aussi une petite larme noire, tatouée ou peinte, sous son œil gauche. Sans doute avait-elle consommé quelque chose, une drogue ou une puce, pour supporter cette épreuve. Stéphane Locard, qui l'avait remarqué, lui avait ménagé jusqu'ici des réponses brèves.
« La question que tout le monde se pose est pourquoi ? Pourquoi une jeune fille pleine d'avenir et de beauté, une jeune fille qui est née dans le luxe et la célébrité, a-t-elle choisi de mourir de cette façon ?»
Titania observa un long silence et Jean sentit son cœur se comprimer. Malgré lui, il souhaitait l'entendre répondre, même si sa réponse lui faisait peur.
« Ma mère n'a pas supporté de me voir grandir. Elle disait que je perdais chaque jour en grâce. Elle a d'abord utilisé des trucages, des astuces pour me faire paraître plus petite. Puis elle m'a donné des pilules, beaucoup de pilules, et fait subir plusieurs opérations pour ralentir ma croissance et aplatir ma poitrine. » C'est à cette période que j'ai commencé à penser à la mort. Une telle haine de mon corps, de ce qu'il devenait, m'était insupportable. Et puis le réseau m'a digéré, pour expulser ce qui restait de moi après la métamorphose catastrophique de l'adolescence. J'étais une jeune fille banale, qui n'intéressait plus personne. J'ai éprouvé une terrible haine de moi, à l'idée que j'avais tout gâché. Ma mère me le répétait sans cesse. « Mais qu'est-ce qui t'a pris de grandir ?» Dès que cela a été possible, j'ai tué Daphné Morgovic. Je me suis enfuie. Tout le monde se souvient de la disparition brutale de Daphné Morgovic, qui avait redonné un coup de fouet à sa carrière médiatique à bout de souffle. À bout de souffle, à 17 ans, conclut Titania tristement.
Les flammes les plus vives ne s'éteignent-elles pas plus rapidement que les autres ?
Peut-être. J'ai changé de nom et de visage pour qu'on ne me reconnaisse pas. C'est ainsi que j'ai trempé mes lèvres dans le poison. Puis je me suis égarée dans la nuit. J'ai perdu le contrôle de mes addictions.
Drogue ?
Pas de drogue chimique, mais des drogues neurales. Et surtout la spirale de la transformation esthétique, qui me coûtait de plus en plus cher. Et vous vous êtes naturellement tourné vers Morgan Corporation, dont vous connaissiez les services.
Oui, je voulais d'abord échanger certains organes naturels contre des organes artificiels, mais en voyant le potentiel financier de mon corps, on m'a rapidement proposé le contrat spécial.
Un contrat hautement sulfureux et illégal, dont la révélation va faire trembler le palais de justice jusqu'au garde des Sceaux. Un contrat que vous avez signé de votre sang.
Et que vous devez honorer aujourd'hui, rappela Stéphane Lockhart d'une voix très douce.
Titania, devant la cruauté de la remarque, ne répondit pas.
Vous avez peur de mourir?
Qui n'a pas peur?
N'y a-t-il aucun moyen légal à votre disposition?
Morgan Corp est au conseil d'administration de la police.
Votre mère n'a-t-elle aucune solution pour vous sauver?
Je l'ai supplié il y a environ un an de dénoncer le contrat.
Stéphane Lockhart joua la surprise. Une photographie d'Irina et Daphné, baignant dans une harmonie de couleurs et partageant un regard complice, apparut sur la droite. La bouche de Titania se crispa et ses lèvres devinrent blanches, mais elle ne dit rien.
« Elle a refusé de le faire !» insista Lockhart, avec la voix entêtée et envoûtante d'un psychanalyste.
« Cela suffit, monsieur Lockhart, » dit Titania sans agressivité. « Je vous ai offert cette histoire à déterrer, et vous pouvez en faire ce que bon vous semble. »
Stéphane Lockhart n'insista pas. Son créneau était la sensation de qualité, la tragédie de bonne tenue, et il respectait scrupuleusement quelques règles d'or, parmi lesquelles celle de ne pas interviewer des personnages en train de crier ou de pleurer. Avec un geste d'ecclésiastique, il offrit son bras à Titania, qui s'efforçait de marcher la tête haute. Jean, suffoqué, les yeux douloureux, se sentait pris d'un vertige.
« Vous m'avez confié, en préparant l'émission, que vous aimiez beaucoup cet endroit, » dit Lockhart. « Et voyez-vous, je comprends pourquoi. »
La caméra s'éloigna du visage altéré de Titania pour offrir une vue de la scène. Les péniches solaires descendaient paresseusement son cours, traversant les sculptures de lumière du célèbre Blatz. Les colonnes qui soutenaient les lampadaires du pont, par la magie toute récente du kaléidoscope quantique, changeaient aléatoirement de forme et accrochaient la lumière de manière sans cesse renouvelée. Stéphane Lockhart demeura silencieux, au bras de Titania, un long moment. Jean se demandait quand, quel jour elle avait réalisé cette émission, si même il était vrai qu'elle ne fut pas en direct. Il lui prenait l'envie de filer jusqu'à la Concorde pour s'en assurer, mais il resta là, paralysé et impuissant, se gorgeant de ces images qui l'hypnotisaient malgré lui. La caméra fit un panoramique sur la place de la Concorde, où le colosse de chrome dressait sa silhouette effilée et stylisée au-dessus du jardin exotique, avant de se rapprocher du grand palais qui, à travers sa verrière gigantesque, laissait filtrer des lueurs dansantes. Il avait été transformé en un parc d'attractions Live Your Dreams pendant l'enfance de Jean, et il se souvenait d'avoir supplié sa mère de l'y emmener. Mais elle s'était toujours opposée à ce caprice, et, étonnamment, il n'y était jamais allé. Titania, au bras de Stéphane Lockhart, paraissait maintenant fatiguée, et ses yeux dilatés regardaient la caméra avec une fixité étrange. Ils arrivèrent au grand palais, où ils pénétrèrent en se frayant un chemin parmi la foule. Des passerelles et des escaliers aériens en métal ajouré remplissaient les trois dimensions de l'espace pour donner accès aux chapelles 3D, où les libertons parfaitement immobiles se livraient à des expériences inédites de vol, de chute ou de vitesse. Titania et le présentateur marchaient lentement, comme à contre-courant de cette foule joyeuse et bariolée.
« Tout se passe toujours dans le cerveau, n'est-ce pas ?» lança Lockhart.
« Je suis morte déjà plusieurs fois par l'esprit. » Alors je me dis que cette expérience n'a rien de nouveau pour moi. » La caméra s'arrêta sur deux jeunes filles sagement installées dans une chapelle 3D. Elles étaient assises dans des fauteuils inclinés, au milieu d'une projection holographique plantant un décor de steppe avec des chevaux sauvages s'abreuvant à un étang et des herbes souples ployant au vent. La caméra s'attarda jusqu'à laisser voir les jeunes filles s'empourprer et rire et crier d'excitation. Lorsque le tour fut fini, la caméra saisit leur visage radieux, puis elle revint sur Titania.
Ces jeunes filles viennent-elles de faire de l'équitation ou de se reposer dans un fauteuil? Demanda Lockhart. Ce que l'on vit dans le monde réel et ce que l'on vit dans son cerveau peuvent être complètement différents.
C'est pourquoi j'ai choisi de mourir tout en éprouvant une autre sensation. Lorsque je mourrai tout à l'heure, ce sera en entendant mon amour me composer un poème, dans une flamboyante poussée de désir, et je le remercie du fond de mon âme pour cela.
Voulez-vous nous parler de lui, nous dire peut-être l'un de ses poèmes ?
Non, dit-elle assez vivement. Je ne veux pas le mêler à toute cette sale affaire. Il est le seul à m'avoir aimé sans le prisme d'une caméra, ajouta-t-elle après un silence.
Il y eut un travelling arrière, et l'on vit les deux personnages sortir du grand palais, puis l'image prit de la hauteur. Titania et Locard, de plus en plus petits, se mêlèrent aux passants indiscernables qui, à une certaine altitude, semblaient tous identiques. La caméra embrassa ensuite une vue parisienne d'une stupéfiante beauté, où s'alignaient le grand palais, le pont, la Seine et le dôme d'or des Invalides. La voix grave et mélodieuse de Locard s'éleva sur un fond musical en mode mineur.
Nous vous remercions, chère Titania, d'avoir partagé avec nous la tragédie que vous vivez, qui nous emplit de terreur et de pitié. Votre mère, Irina Morgovic, qui prend à la lumière de votre témoignage les traits d'une terrible Médée, sera notre invitée la semaine prochaine. Et nous l'interpellerons sur l'immense scandale qui éclabousse d'une nouvelle gerbe de sang le marché de la santé, dont les bénéfices sont insolents. Morgane Corporation survivra-t-elle au procès qui ne manquera pas de lui être intenté ? Alors vous regarderez cette émission, chers Raisonautes. Titania se trouvera dans les locaux de Morgane Corporation, prête pour ce qu'ils appellent l'échange. Sa mère la sauvera-t-elle in extremis ? Titania, pensez-vous que cela soit possible ?
La caméra revint brutalement en gros plan sur elle. Elle semblait avoir froid et être un peu égarée. Jean serrait les poings jusqu'à en avoir mal, impuissant.
« Je ne sais pas, dit Titania, je me prépare au pire. » Et ce sera le mot de la fin. Celle qui va mourir vous salue. Chers Raisonautes, Titania était en exclusivité pour vous sur Happenings pour vous rappeler que notre réalité a une fois de plus dépassé la fiction.
Le grand plan sur Titania montrait son visage tendu à l'extrême, comme si le masque qu'elle s'était composé était sur le point de craquer. De ses yeux lavandes aux pupilles dilatées, de vraies larmes coulaient à présent, emportant dans leur sillage noir la larme peinte sous la paupière gauche. La phrase musicale s'acheva, et l'écran redevint noir. Comme des milliers de courtisans, Jean arracha son casque en pleurant.
Il lui restait quelques minutes avant midi, et le tumulte dans ses entrailles et sa poitrine le rendait presque fou. Il avait tantôt un pressentiment terrible, la quasi-certitude de la perdre, et tantôt une bouffée d'espoir lorsqu'il repensait à Mito et à ses recommandations logiques. Il avait tout calculé pour la sauver, très peu de choses étaient laissées au hasard. Tout devait se passer comme il l'avait prévu, et il reverrait Titania bientôt, ce soir, dès que l'heure fatidique de midi aurait sonné. À certains moments, il arrivait presque à se persuader que tout ceci faisait partie de la mise en scène de Titania et qu'elle serait là malgré tout au rendez-vous. Il voulait que le temps s'accélère et pourtant, l'heure qui approchait le remplissait de terreur. Il avait de brusques coulées de sueur glacée. Il fit les 100 pas puis se rassit. Il lui semblait absurde que la perte de cette fille, qu'il ne connaissait pas la semaine d'avant, lui fût devenue si insoutenable. Il lui semblait encore plus absurde que ce corps qu'il désirait tant put lui être brutalement retiré dans quelques minutes. L'horloge de son Hervé semblait le narguer, et il aurait juré à un moment que le temps reculait plutôt que d'avancer. Midi, pourtant, finit par sonner. Alors qu'il observait la foule dans l'espoir grandissant de voir arriver Titania, il fut interpellé par une jeune femme en uniforme de livraison, à quelques centimètres de lui. « Libère-t-on Jean Corville ?»«
Oui, » dit-il, tremblant. « Je dois procéder à une vérification de votre identité avant de vous remettre un votre colis. »«
Un colis ?» répéta-t-il sans comprendre. « Dans la rue ?»«
Oui, à la fontaine Stravinsky, à midi pile. N'aviez-vous pas rendez-vous ?»
Quelque chose s'effondra à l'intérieur de Jean, ne laissant qu'une enveloppe vide autour d'un chaos total. La livreuse ne parut pas remarquer son trouble et elle poursuivit sa tâche sans ciller. Il ne regarda même pas la grande valise de Marc, blanche et nacrée, qu'elle lui laissa entre les mains. Ainsi, elle était allée jusqu'au bout. Elle n'avait pas renoncé à honorer son contrat. Si Mito avait raté son coup, à l'heure qu'il était, elle était morte.